deux invités, Elena Noguera et Pascal Demolon. En apparence, c'est une belle actrice qui en plus chante très bien. En apparence, c'est un comédien atypique et talentueux. Et en réalité, ils sont tous les deux à l'affiche de la nouvelle série de France 3, Au-delà des apparences. J'ai le plaisir donc de recevoir Elena Noguera et Pascal Demolon.
Ouais. Bonjour, bonjour tout le monde.
Bienvenue.
Alors, c'est une série de 6 épisodes de Stéphane Kaminka.
Absolument, 6 épisodes terminés, finis, bloqués, bouclés. Il n'y aura pas de saison 2.
Adapté d'une série québécoise Apparence.
Oui.
Et c'est absolument l'histoire d'une jeune femme qui disparaît, c'est ça?
Oui. Donc, je suis Alexandra. Et ma sœur jumelle s'appelle Manon.
Nous allons fêter. Comme ça, vous faites les deux rôles, c'est bien.
Non, j'aurais bien aimé, mais
non.
C'est
pas vous qui...
Non, c'est une fausse jumelle. Donc, c'est Hélène Cesaret qui est excellente. Dans la série, parce que c'est une série un peu chelou.
Et, qui fait peur.
Un petit, pas peur, mais il y a du suspense, n'est-ce pas, Pascal?
Tout à fait. Ouais.
Et vous jouez le frère d'Elena Noguera, Pascal de Molon.
Un des frères.
Vous ne lui ressemblez pas tellement.
Ah bon? On m'a menti, alors.
Mais justement, il y a des secrets de famille dans la série.
Et qui peut expliquer ceci et cela.
C'est ce qu'on va découvrir.
Il y a un suspense tout au long de la série.
C'est ça. À travers la disparition de Manon, ma sœur jumelle, eh bien, les secrets de famille vont se révéler. On va chercher un responsable.
Ça vous a parlé, Elena Noguera, ce rôle? Parce que vous jouez la sœur dans la lumière et vous avez été...
L'ombre.
Vous avez eu l'impression, parce que ça c'est un...
Pas toujours, dites-moi.
Non,
je l'ai vu souvent en lumière.
Ah, oui. Mais vous dites que vous avez 8 ans quand votre sœur Lio a été connue et que ça vous a un peu traumatisé votre enfance, l'impression de ne pas exister, de jamais être reconnue.
C'est un peu exagéré. Disons que j'avais 10 ans, mais effectivement, il se passe quelque chose quand vous vous construisez et que l'autre est à ce point-là dans la lumière. Il se passe des choses dans la famille et donc c'est une construction un peu difficile. Et après, quand vous arrivez derrière et que vous postulez pour le même métier, c'est d'autant plus compliqué.
Ça vous a pas ouvert de porte d'avoir que votre sœur soit...
Si, je pense que ça attire la curiosité, que les gens sont curieux et sont attentifs. Après, il faut quand même... Faut y aller, quoi. Faut arriver avec une vraie proposition, parce que sinon, vous êtes vite
dégommé. Et en même temps,
vous
entendez très bien avec votre sœur, c'est ça qui est...
Oui, on s'entend très bien, parce que le problème, c'est pas elle et moi, c'est moi et le monde. Donc, c'est le monde qui renvoie quelque chose.
Ça va mieux, maintenant?
Ah oui, là, ça y est, mais parce qu'on est âgés, on a fait nos preuves, on est des dames, désormais.
Pascal Do, vous êtes...
J'ai pas eu ce problème, moi. Voilà. Non, je l'ai pas eu.
Vous revenez de loin, vous, quand même.
Revenir, je ne sais pas. Venir, oui, tout court.
Alors, pendant longtemps, Pascal Demolon, vous avez galéré comme comédien. Vous jouiez des petits rôles, il fallait passer des castings. Et là, depuis quelques années, c'est l'explosion. Tout le monde vous veut, vous désire.
Gros silence pour créer un peu de tension. Je voudrais ma séquence émotion. Alors voilà, c'est maintenant. Écoutez, oui, c'est vrai, j'ai eu cette chance. Je le dis bien, cette chance, c'est venu tard.
Sur le tard, c'est venu à quel âge le gros succès?
Pour tout vous dire, 45 ans. Je ne les fais pas. Hein.
Vous savez quel âge là?
Je les ai. je ne vous dirai pas, faites le compte.
C'est sur ma fiche.
Ah, c'est sur la fiche alors, ok. Elle sait tout. 54.
Ouais. Donc ça fait quand même 9 ans que ça cartonne.
Ça travaille.
On vous prend souvent pour des rôles de tueur, il paraît. Il paraît que maintenant on dit si tu veux un tueur, demande à Demolon, il fera ça très bien.
Et oui, c'est vrai, on l'a dit.
C'est la moustache.
Non, mais vous avez un côté flippant, je trouve, un peu.
Oh, merci. Mais écoutez, pour vous mettre dans la confidence, vous n'êtes pas la seule à le penser. Et là, au moment où je vous parle, en fait, j'ai une autorisation de sortie. Je suis en prison pour des délits. Voilà.
Non, mais vous avez un côté sur un fil. On a l'impression que vous pouvez partir en vrille à tout instant, un peu. C'est ça.
Quand on me le demande, oui, je suis un bon élève, donc c'est vrai que...
Il est comment sur un tournage, Elena Noguera, Pascal Demolon?
Très bon camarade, très drôle, c'est très difficile de garder son sérieux.
Il fait l'andouille?
Je ne sais pas, il a un humour assez corrosif, et corrosif n'est pas le mot, et un humour énorme, donc on rit beaucoup, c'est très difficile de garder son sérieux, on a eu beaucoup de mal. Et quand je vois la série, il y a des moments très sérieux et moi je vois qu'on a l'œil qui frise parce qu'on riait juste avant la prise et on se faisait parfois gronder par Éric Vorette qui est le réalisateur de cette série de qualité. Et Éric parfois devenait fou parce que c'est vrai qu'on ricanait comme des enfants.
Elena Noguera, vous êtes apaisée dans vos vies sentimentales maintenant, ça y est, tranquille?
Je suis apaisée, très apaisée là. C'est calme. Donc,
et là, vous êtes célibataire, Elena?
Célibataire, donc vous pouvez écrire à Europe 1.
Non, mais vous êtes magnifique, vous avez plein d'hommes à vos pieds, non?
Oui. Ah,
nos deux invités, Elena Noguera et Pascal Demolon pour la série Au-delà des apparences qui démarre donc demain soir sur France 3.
Oui.
Un petit mot pour dire quelque chose.
Demain soir.
Oui, on est
oui,
lundi,
demain
Pascal.
Soir.
Ah bon,
okay.
Ah, oui,
on est lundi.
Où on est là. Oui,
on est lundi.
On est lundi.
Vous êtes un peu déphasé.
Oui, un petit peu depuis que moi-même j'ai émigré à la campagne aussi, figurez-vous.
Vous vivez à la campagne.
Je me suis offert ça pour mes 54 ans.
Oui.
Dites-moi, vous me direz un mot gentil aussi. Vous ne les faites pas, Pascal.
Allez, je voulais vous dire.
S'il vous plaît, j'en ai besoin.
Pascal Demolon, vous ne faites
c'est
pas
vrai,
54
il les fait
ans.
Pas.
Vous faites un peu adolescent, un peu starbé, quoi.
Un peu starbé.
Qu'est-ce que vous aimeriez jouer comme rôle dans, à l'avenir, Pascal Demolon ? Vous avez des envies de rôle de...
Oh bah oui, forcément. Sinon, oui, on arrête de faire ce métier. Quand on a... J'aimerais bien retourner à la comédie. Voilà, parce que là, j'ai enquillé, comme on dit.
Oui,
des choses un peu tendues.
Mais en même temps, c'est normal que vous inspiriez ça aux gens.
De quoi de trucs tendus ?
Non, mais parce
peur,
que...
Anne.
Mais non, mais...
Vous avez des infos que je n'ai pas sur...
Non, mais vous voyez ce que je veux dire, oui. C'est un peu normal.
Oui, ça peut arriver. Oui,
vous aimeriez donc jouer en comédie quelque chose, un rôle qui fait pas peur, quoi, en fait.
Oui, pour le coup, non, mais il m'arrive d'en faire qui ne font pas peur. Mais c'est vrai que ces derniers temps, waouh. Et là,
beaucoup
Gare prend conscience d'un truc. Il se dit, mais ça y est, je comprends tout. Je fais peur, en fait. C'est ça le truc.
Elena Noguera, vous aimeriez aller vers quel type de rôle?
Et ben moi, j'aimerais bien faire des méchantes.
Ah oui?
Bah oui, j'aimerais bien faire une chef de gang, une killeuse, la tête rasée. J'aimerais bien me raser la tête et faire un truc un peu dur. Ouais.
Bah c'est pas comme ça que vous allez trouver un mec, Elena.
Bah peut-être que oui, parce que... Bon, non, mais une méchante, ouais, un truc un peu...
Et vous allez sortir un nouvel album bientôt, Elena Noguera?
Oui, c'est de la bossa nova, c'est un petit frère de Azul. Alors pour ceux qui ont suivi... J'étais chanteuse, enfin je suis chanteuse, parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression que je suis comédienne, parce qu'effectivement c'est plus visible. Mais donc il y a un 7e disque qui va sortir. Et pour ceux qui ont aimé Azul, c'est un petit frère d'Azul, mais en français. Azul était un disque de bossa nova en brésilien que j'avais
Chantez
composé.
Chantez-nous un petit truc a cappella en...
En brésilien?
Ouais.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Je m'auto-applaudis.
Mais vous pouvez, c'est très joli. Jean-Philippe Busigny a des choses à vous dire.
Oui.
Vous aussi, comme dans la série, votre femme disparaît régulièrement ?
Oui, c'est ça. Un peu comme dans votre série, Au-delà des apparences, de temps en temps, ma femme disparaît. Mais heureusement, elle réapparaît quelques jours plus tard. Hein, c'est un peu comme dans votre série, on ne sait pas trop si elle se fait enlever, si c'est par accident. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je lui demande ce qui s'est passé, elle se rappelle de rien. L'autre jour, elle a disparu pendant une semaine. Alors, c'est très bizarre, parce que quand elle est revenue, elle avait la tête toute bronzée. Elle avait juste une trace de bronzage, comme si elle avait eu un masque sur les yeux. Ça doit être son ravisseur hein, qui lui a mis pendant son kidnapping.
Enfin, Jean-Philippe, vous ne pensez pas qu'elle est partie au ski, tout simplement ?
Ben non, elle sait très bien que le ski, j'adore ça. Elle m'aurait proposé de partir avec elle. Hein. Non, je vous assure, elle se fait kidnapper régulièrement. Et moi, ça m'inquiète de plus en plus. Le week-end dernier, elle s'est fait kidnapper le samedi vers 18h. Heureusement, elle a réussi à s'évader. Elle est rentrée à la maison vers 5h du matin. Dans un état, la pauvre. Ils ont essayé de la droguer ou je sais pas, elle n'arrivait plus à parler. Elle était accompagnée de 3 autres garçons complètement drogués, eux aussi. Sûrement des otages qui l'ont aidée à s'évader. Bon ben moi, du coup, je leur ai laissé ma place dans le lit. Après tout ce qu'ils venaient de vivre, les pauvres, fallait qu'ils se reposent.
Non mais Jean-Philippe, vous posez pas des questions là quand même ?
Ben si, évidemment, je suis pas bête quand même. Hein. Je me rends bien compte que ma femme a une double vie. Vous rendez compte, ça fait des années qu'on vit ensemble et c'est seulement maintenant que je découvre que ma femme, en fait, ben, c'est un agent secret. Vous voyez, ben, quand on vit avec un agent secret, forcément, là, la vie, c'est compliqué. L'autre jour, je voulais réserver les vacances pour cet été. Elle me dit, réserve où tu veux, de toute façon, cet été, je serai plus là. Vous rendez compte ? Elle est prête à donner sa vie pour la nation. C'est beau, chérie, si tu m'écoutes, je t'aime, vive la République et vive la France.
Notre première invitée, qui est une chanteuse révélée par l'émission Popstar, devenue une des stars de la pop dès son premier single, écoulée à plus d'un million d'exemplaires. Après 4 ans d'absence, elle revient en force avec son 7e album. Et pour elle, ses fans ont forcément les yeux de Chimène. Un tonnerre d'applaudissements pour Chimène Badi.
Bonjour, merci.
Merci.
Bonjour Chimène Badi.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors,
bonjour.
Vous n'êtes pas fatiguée pour ce titre d'album Chimène?
C'est un album éponyme, ça s'appelle.
C'est l'essentiel.
Non, mais je me disais, voilà, il n'y avait pas un titre en particulier que j'avais envie de sortir de l'album pour lui donner un nom. Ouais. Parce que chaque chanson a son monde, et en termes d'arrangement et par rapport au thème, chacun. Donc voilà, je me suis dit que Chimène, ça pouvait être... c'était le plus simple, c'était le plus logique en plus.
Vous avez vendu un nombre de disques incalculable quand même.
C'est vrai.
Vous êtes, un record, vous êtes une des record woman de vente en France.
Il y a écrit
quoi.
10e place des meilleurs vendeurs de disques en France dans la dernière décennie.
Ouais, mais...
Non, vous avez un public archi fidèle, quoi. C'est extraordinaire.
Oui, mais le public, quand il n'aime pas ou à un moment donné, quand il n'est pas d'accord, il le fait ressentir.
Ah oui, bien sûr.
C'est ce qui est
premier
aussi,
album en 2003, 800 000 exemplaires. Ah, ensuite... un million de dis-moi que tu m'aimes. On vous a dit qu'on vous aimait du coup.
Pour le coup, oui.
La première fois que votre père vous a vu à la télé, il paraît qu'il a des grosses larmes qui ont coulé sur ses joues.
Ouais, c'est vrai.
Wow.
Est-ce qu'il savait pas que vous chantiez comme ça ou alors c'est de vous voir à la télé?
Non, je pense que. Ah, ça fait longtemps, parce que je les ai pas vus. Parce que je suis en promo grave en ce moment.
Il vous manque.
Ouais. Oh, c'est vous qui allez pleurer. Oh. Ouais,
ben en fait, ouais, il était, je pense qu'il a été ému. Et puis, mais mon père, au départ, il ne voulait pas que je chante hein, quand j'étais plus jeune. Hein.
Ah ouais ?
Non, non, lui, il voulait que je fasse des études. Il voulait, et pour lui, ça, c'était synonyme de galère, quoi.
Ce n'était pas un vrai métier pour lui.
Ouais, et puis ma mère, elle lui a dit, tu devrais l'écouter. Donc un jour, il m'a appelé, je crois que je devais avoir 11-12 ans, il m'a appelé, il était dehors, derrière.
Votre père était gardien de prison ?
Ouais. Il me dit, chante-moi une chanson. Et je lui dis, bah, tu veux que je te chante quoi? Il me dit, bah, chante-moi un titre de Stevie Wonder, tiens.
Ouais.
Donc je lui chante un titre de Stevie Wonder. Et il me regarde comme ça. Je sens dans son regard qu'il se passe un truc. Il me dit, ok, merci. Puis je suis partie et il a dit à ma mère, si elle a envie d'être chanteuse, je serai là, je la laisserai jamais tomber.
Wow, c'est mignon. Génial. Ouais.
C'était comment ce titre de Stevie Wonder?
C'était
que
Free? Non, c'était pas Free.
Happy
Birthday. Everyone's feeling pretty. It's a third of July. The world for the problems. They could have touched to see the never then try. Didn't know you would be jamming until the break of dawn. I bet nobody ever told you that you would be jamming until the break of dawn. Would be jamming it, jamming it, jamming it, jam on.
Bravo!
On adore!
Alors on va écouter tout de suite un extrait de votre dernier album.
D'accord.
Qui s'appelle Là-haut.
Ouais, ok. Donc là je dois aller chanter en live.
Bah ouais.
Salut.
Qui peut nous dire qui nous sommes? Rien ni personne. Rien ni personne. Qui pourrait changer la donne? Rien ni personne, rien ni personne. Non, rien n'arrive par hasard, comme nos vies qui s'égarent. Rien ne changera l'histoire. Ça vient de là, oh, comme le vent sur moi. Oh, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là, oh, comme le vent sur moi. Oh, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Est-ce que l'avenir nous retient entre ses bras, pourquoi remettre à demain si on se bat, si on se bat. Non, rien n'arrive par hasard, comme nos vies qui s'égarent. Rien ne changera l'histoire. Ça vient de là, oh, comme le vent sur moi. Oh, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là, oh, comme le vent sur moi. Oh, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut. Ça vient de là. Ça vient de là. Oh, comme le vent sur moi. Oh, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là. Oh, comme le vent sur ma peau. Le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut. Ouh, ouh, ça vient de là-haut. Comme le vent sur ma peau. Le destin nous entraîne comme une ritournelle.
C'était super.
Bravo, incroyable.
Vous avez bien fait de ne pas devenir... Vous aviez fait un bac professionnel chez Medmadi, BEP d'agroalimentaire, et ouais, vous deviez devenir inspectrice de l'hygiène dans la restauration.
Ouais, j'imagine. C'est de l'amour.
Mais en fait, parce que mon père, il m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et j'ai dit, mais je sais pas, moi j'ai juste envie de chanter, le reste j'ai pas d'idée, je sais pas. Et puis comme j'étais assez à cheval sur l'hygiène et tout, les restos, j'avais des doutes, je me suis dit, bon ok, pourquoi pas ça. Et puis je passe le BEP parce que j'ai pas choisi, j'avais pas envie d'aller dans une filière ouais, normale,
général,
ouais, général, moi j'avais pas envie, pour des tas de raisons. Et donc j'ai passé le BEP, et au lieu de passer le bac, j'ai passé le casting de Popstar.
C'est bien joué. Bac à vous. Alors à 21 ans, vous vous retrouvez à chanter en duo avec Johnny Hallyday à l'occasion de sa tournée des stades.
Ouais.
11 dates avec Je te promets.
Oui, c'est vrai.
Ça a dû être un souvenir incroyable. Vous aviez 21 ans, chanter avec Johnny Hallyday.
Ça a été mon parrain un peu, hein, j'ai envie de dire, parce que d'abord, c'est un homme hyper généreux qui m'a énormément appris. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Mais ce qui était assez fou, c'était... Bon, ce monde, évidemment, c'était assez dingue. Mais moi, j'avais juste envie d'être à la hauteur par respect pour lui, en fait. Voilà, je voulais qu'il soit content de moi et de mon travail. Et c'est ça qui me faisait vraiment flipper. Parce que il est impressionnant. Et que chanter à côté de lui... Quand j'ai mis mes ears et qu'il a ouvert la bouche, j'ai dit « Ah ouais, d'accord. » C'est chaud.
Ça faisait quoi, Chimène Bani, qui chante « Je te promets »?«
Je te promets le ciel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. »
Ouais, le grain.
Ça doit être chiant de faire un karaoké avec vous.
Ouais, j'avoue que des fois, mais en même temps, non, mes copines, elles chantent, elles s'en fichent. Ouais. Hein.
Et comment vous avez vécu l'expérience Destination Eurovision alors ?
Ah, c'était trop bien, c'était à refaire, je refais demain. Vraiment, c'était une très très belle expérience. Ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté avec autant d'envie, que je n'avais pas eu autant envie d'aller chercher le public. Il y avait un truc comme ça assez... assez fort, et sincèrement ça faisait très très longtemps que j'avais pas ressenti ça.
Moi je vous dis honnêtement, je suis devant ma télé, je vous vois arriver dans cette espèce de concours quoi, pour représenter la France à l'Eurovision, je me dis mais quel courage.
Ah oui,
ouais, c'est vraiment c'est ce qu'on m'a dit aussi,
l'humilité incroyable.
Ouais, ah ouais.
Et vous avez été stressée de vous remettre dans un concours justement?
J'y ai vraiment bien réfléchi hein, avant de me lancer dans le truc, et puis c'est surtout ma réponse, elle a été très simple, j'ai dit je vais aller en studio, je vais travailler, et si j'ai la chanson je le ferai.
Ouais.
Et c'est la chanson qui m'a donné l'énergie pour le faire, en fait.
Qui est là-haut, d'ailleurs.
Qui est là-haut.
Qui est super.
Voilà. Et je ne me suis plus posé de questions à partir de ce moment-là. Je me suis dit, OK, je me suis lancée dans le truc, maintenant j'y vais.
Donc, en fait, Chimène m'a dit à votre disposition pour toutes auditions.
Tu sais, Anne, si je m'écoutais, je passerais ma vie à aller faire des concours à l'étranger, partout et tout.
C'est vrai.
Ouais, ouais. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Il y a ce côté un peu défi que j'aime bien relever comme ça. Et puis, je suis dans mon élément avec un micro. Donc, voilà.
Jérémy Lorca a des choses à vous dire, Chimène Badi.
Oui, Chimène Badi, je suis ravi de vous rencontrer et assez troublé parce qu'on est venu au monde quasiment à la même date. On a donc démarré la vie au même moment. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu deux parcours bien différents. Pour vous, comme pour moi, ça s'est joué à 20 ans. Il y avait deux routes possibles, le succès ou Pôle emploi. Et c'est là que nos chemins se sont séparés. Et pourtant, cette année-là, on a failli se croiser puisqu'on a fait Popstar la même saison.
C'est vrai ?
Ouais. Et encore une fois, on a eu deux parcours bien différents.
C'est vrai ? Qu'est-ce qui t'a pris, toi, de faire Popstar ?
Alors, tu vas voir, je précise que pour ma part, c'est parce que j'avais perdu un pari. Mais sur un malentendu, j'ai quand même fait 3 tours hein, sur moi-même.
Cool.
Alors d'ailleurs, Chimène, je sais pas si vous vous souvenez, mais on devait d'abord passer un casting de présélection veille.
Pour écrémer.
Voilà, et moi j'y vais, je donne tout, je chante Bruel, première fois de ma vie que je chante devant des gens, j'ai une révélation, je sens qu'il y a une pop star qui sommeille en moi. Et là où je suis en train de prononcer ces mots, c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans le public d'Europe 1, parce que j'entends tout le public crier « Oh là là, mais comment tu chantes Patrick Bruel ?»«
Oh là là, comment tu chantes Patrick Bruel ?»
Mais quelle spontanéité. Puisque vous insistez...
Non, t'es sûr.
Attends. « Le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. »
Sera-t-il la neige envahit l'écran. J'ai vu des hommes qui courent, une terre qui recule. Voilà.
C'est pas mal,
et du coup, c'est qui la pop star qui dort en toi?
Apparemment, elle s'est pas réveillée, la pop star qui dort en lui.
Et ben, vous savez quoi? Évidemment, il me donne le ticket. Moi, tu sais, le premier jour, oui, donc, je me vois déjà remplir l'Olympia. Le lendemain, donc, je passe devant le vrai jury. En plein milieu de la chanson, ils me disent chut. C'était trop de talent pour eux, ils étaient jaloux. Voilà comment s'est arrêtée ma carrière
énorme
musicale. Ouais, d'accord. Contrairement à la vôtre, qui s'est envolée grâce à cette émission, puisque vous n'avez pas gagné, mais c'est vous qui êtes devenue la vraie star issue de ce programme. Vous avez enchaîné les tubes et par la même occasion, vous avez redonné espoir à toutes les personnes qui échouent. Et on va pas se mentir, on est vraiment nombreux à échouer autour de cette table. Alors pour ça, merci Chimène Badi. À chaque fois, je me suis fait virer d'un truc, j'ai pensé à vous en me disant, je vais tellement tout déchirer comme a fait Chimène. Ils vont voir ce qu'ils ont perdu. Bon, ça n'a jamais marché. Mais un jour ça marchera. En attendant, vous allez faire le casino de Paris. Alors que moi je vais juste faire le petit casino, hein. Mais c'est le petit casino en bas de chez moi pour faire mes courses. C'est différent. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même, Chimène Badi, parce que vous avez un mental d'acier, vous le dites, hein. Vous avez été harcelé à l'école, mais ça vous a pas empêché de vous surpasser. Vous faites Danse avec les stars à la première émission. Vous vous demandez ce que vous faites là, mais vous performez quand même. Alors vous êtes chanteuse et je suis d'accord avec vous, le physique on s'en fout, mais ça dénote quand même une sacrée force de caractère. Parce que moi je peux vous assurer, tous les dimanches je me dis demain je commence un régime, j'arrive à la cantine le lundi midi, il y a un éclair au chocolat, c'est foutu, hein. Ma motivation a tenu 8 heures. J'ai pas votre mental. Ah bah ouais, j'ai pas du tout.
Il mange des frites avec.
La balance.
Ou les frites ou l'éclair, mais quand même pas les deux. Hein.
C'est ça. Et chaque fois, j'ai dit, mais tu manges des frites? Il dit, mais oui, mais j'ai pas eu le temps de demander, on me les a mis.
Oui, je les mets d'office. Ah non, moi, j'ai pas du tout votre mental face à la nourriture. Et on est nombreux autour de cette table à ne pas avoir votre mental face à la nourriture. Je ne vise personne. En tout cas, on vous sent de plus en plus épanoui. Hein. Vous dites que vous êtes bien dans votre corps et moi aussi, je rêve d'être bien dans mon corps. Enfin, j'aimerais déjà être bien dans le corps de quelqu'un d'autre.
Mais oh,
ça,
non,
c'est une autre histoire. D'ailleurs, pour être en couple, il faut peut-être d'abord trouver la paix intérieure. Et justement, à propos de votre titre « Là-haut », vous dites que ça sonne comme un appel à poursuivre son chemin vers le bien. Alors, merci de nous montrer le chemin et entre nous, je vous souhaite beaucoup de succès avec ce nouvel album.
Ah, c'est gentil, merci beaucoup, bravo.
Plus connecté des philosophes, également le seul capable de citer dans une même chronique à la fois Marcel Proust et Maître Yoda. À la radio, il a su redonner à la philosophie une place de choix. Il vient nous parler de son nouveau livre, Nouvelle morale provisoire. Raphaël Enthoven est avec nous ce matin. Bonjour Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven, il y a une question que tout le monde voudrait poser aux philosophes, mais personne n'ose, alors je me lance. Comment on épelle Nietzsche?
Comment quoi?
C'est bien. Super. On va commencer par comment on le prononce déjà.
Ça s'épelle Nietzsche.
Ouais, exactement.
Nietzsche. Voilà.
Mais il y a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler ou ça se prononce comme
non,
ça?
Non, il n'y a aucun moyen mnémotechnique. Il faut juste ramer, il faut faire un effort. C'est comme ça. C'est Nietzsche, mais ça se dit Nietzsche, ce qui est plus facile.
Raphaël Enthoven, dans votre livre Nouvelle morale provisoire, vous dénoncez le flot continu de l'information, notamment sur Internet. Pourtant, vous-même, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que votre livre, c'est une forme d'autocritique aussi?
Non, je ne le dénonce pas du tout. Au contraire, je dis qu'on est milliardaire en news, mais qu'on ne sait pas en profiter. Ouais. Je dis qu'au contraire, on vit comme un gavage ce qu'on devrait recevoir comme un anniversaire quotidien. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est le Père Noël, les infos. Ce n'est pas du tout une invasion. C'est au contraire un trésor. On est milliardaire et on ne sait pas s'en servir. Donc, j'essaie dans ce livre humblement de montrer que des trucs qui nous accablent et qu'on essaie d'oublier parce qu'on a besoin de respirer sont en fait des trucs passionnants où on peut prélever des diamants, de l'or et des rigolades.
Vous avez toujours cette voix chic un peu.
Ah, vous avez vu, hein.
Elle est en train de vous draguer.
Non, pas du tout, mais à côté comme ça, un peu comme ça.
Mais vous savez, en fait, c'est que...
On sent que vous venez pas d'un milieu populaire.
Ah bon?
Ça veut dire quoi, ça?
Mais qu'est-ce que vous savez de mon milieu?
Non, mais la manière dont vous parlez, quand même, il y a une forme d'élégance.
Vous voyez que je vais l'aider comme ça?
Un peu.
Ah bon? Non, c'était vous, ça. Non, sur scène, enfin bon, peu importe. D'accord, peut-être si vous le dites.
Et vous pourriez prendre une voix un peu plus prolo, Raphaël Enthoven?
Je sais pas, oui, certainement, mais j'aime pas me donner en spectacle, donc je le ferai pas ici.
Bah, vous aimez pas vous donner en spectacle, vous adorez faire du théâtre, vous dites, c'est là où vous en...
J'adore faire du théâtre.
Et en même
absolument
temps, c'est
on va sur scène ensemble quand vous voulez. Hein, et là, je prends la voix que vous voulez.
Ce qui me fait rire, c'est que c'est Anne Roumanoff qui vous dit, mais c'est vrai que vous avez une élocution. C'est gonflé.
Non, mais vous dites, vous avez fait 10 ans de théâtre avec les anciens de Normal Sub, une troupe qui s'appelait Archicube, et vous dites que c'est là.
Ça s'appelle toujours d'ailleurs.
Vous êtes le plus heureux sur scène, le plus à l'aise.
Je n'aime rien tant que les estrades, les scènes, tous ces endroits, le studio de radio quand la lumière rouge s'allume et qu'on est sans fil. C'est les moments où je suis tranquille en fait, c'est les moments où je suis serein, parce que c'est les moments où on est débarrassé de soi-même. On ne peut pas penser à soi quand on est exposé, quand on est en danger, quand on est sans filet. On ne peut pas penser à soi. On ne peut pas s'encombrer de soi-même. Donc, c'est des moments où on est libre de soi.
Est-ce que vous avez joué des rôles de prolo, justement ?
J'ai joué à peu près tous les rôles. En 10 ans de théâtre, vous faites beaucoup de choses différentes. J'ai joué des connards brutaux. J'ai joué
alors
des,
ça donne quoi,
des
Raphaël Rantoven en connard brutal?
Mais je vous montrerai tout à l'heure. Si vous voulez. Alors là encore, c'est vraiment dans un studio, c'est délicat. Voilà.
Et vous aimeriez faire du cinéma ou des choses comme ça?
Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question.
On vous a proposé
Oui, mais...
On vous a proposé quoi comme rôle?
Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je tairai, par charité pour ceux à qui j'ai dit non, je tairai leur nom. Donc voilà.
Mais alors, vu le genre, moi je dirais camping.
Oui. Alors vous seriez surpris, absolument. J'ai même essayé le slip bleu. Enfin voilà. Donc, mais là encore, je peux pas montrer ça ici, même à Europe.
Alors Raphaël Rantoven, vous posez des questions concrètes dans votre livre Nouvelle morale provisoire aux éditions de l'Observatoire, en rapport avec l'actualité récente. Par exemple, valait-il mieux pour Weinstein qu'il se fît prendre ou qu'il restât impuni?
Oui, parce que c'est un débat, en fait. Alors, pardon, il faut que je parle de Platon, là, mais c'est important. Vous savez, il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Gorgias, dans lequel Socrate explique à son interlocuteur que, en fait, pour un usurpateur, un type qui veut usurper le pouvoir, il vaut mieux qu'il se fasse prendre, que sa famille soit écartelée sous ses yeux et que lui-même meure, plutôt qu'il parvienne à ses fins. Et l'autre lui dit, mais enfin, t'es complètement fou. Le type, au lieu d'arriver au pouvoir et de jouir du pouvoir, il vaudrait mieux qu'il se fasse prendre. Oui, lui dit Socrate, parce que le vice est de plus mauvaise compagnie que la vertu, même quand on est puni pour elle. Bon, et c'est un débat qu'on avait
j'ai rien
autour.
Compris, hein.
Bah, c'est autour d'Harvey.
Non, mais je vois pas de rapport avec Harvey Weinstein.
Mais parce que Harvey Weinstein, quand l'affaire est sortie, il y avait des gens pour dire, tu te rends compte, le mec, il s'est fait prendre, mais il aurait pu ne pas se faire prendre. Il aurait pu passer sa vie à se taper les plus belles actrices du monde et mourir dans la gloire et dans la fortune, et il s'est fait prendre. C'est dommage pour lui. J'ai entendu ce discours-là. Or, c'est exactement l'argument de l'interlocuteur de Socrate, qui disait, un usurpateur, il vaut mieux qu'il parvienne à ses fins plutôt qu'il se fasse prendre.
Non, mais vous, qu'est-ce que vous pensez, Raphaël?
Moi, on s'en fout, mon opinion n'a aucun intérêt, c'est pas mon but. Mon but, c'est de trouver, je trouve une situation concrète que tout le monde connaît.
Et il se trouve réflexions.
Que je connais un texte qui dit la même chose et qui a 2500 ans d'âge. Je ne fais que la jonction entre les deux, mon boulot c'est ça.
J'ai rien compris, il y avait déjà Weinstein il y a 2500 ans.
Mais oui, comment ?
Il y en a plein des. Croyez
qu'on ne violait pas il y a 2500 ans, croyez qu'on n'abusait pas des gens et la condition des femmes à Athènes il y a 2500 ans.
Malheureusement.
Non, mais est-ce qu'il y a vraiment, d'ailleurs, pour un philosophe, des réponses tranchées à ces questions, ou est-ce que ce livre, c'est juste une invitation au débat? Parce que, est-ce qu'à la fin d'une discussion philosophique, il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison, ou alors tout le monde a raison et personne n'a tort?
Ça dépend de la discussion. Ça dépend de la discussion.
C'est, ça doit en être fait... impossible dans la vie privée de discuter avec un philosophe.
Au contraire, je crois. Enfin, j'espère. Je ne sais pas.
Oh, non, si mais j'imagine voulez... que... Alors là, j'imagine. Vous devez, faire des pirouettes, la fille, elle ne comprend plus rien.
Les pirouettes, je mets les pieds sur la tête.
Non, mais c'est compliqué, quelqu'un qui a une telle brillance intellectuelle pour discuter vraiment des choses.
Discuter des choses, c'est quoi? C'est être capable de changer d'avis quand on parle d'un sujet, c'est tout. C'est arriver avec le moins de certitude possible. Il y a une phrase vraiment qui est belle comme tout, qui dit « n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi ». Donc en gros, quand vous croisez des gens qui sont absolument sûrs de ce qu'ils racontent, qui croient tout ce qu'ils pensent, c'est qu'ils n'ont pas approfondi la chose. Donc mon boulot, c'est d'arriver avec une petite pelle dans ces cas-là et de creuser un peu pour montrer éventuellement à la personne qui est pleine de ses convictions que peut-être, il y a une autre façon de penser.
Et vous êtes convaincu de ce que vous venez de dire?
Absolument certain.
Excusez-moi, mais ce côté de dire... Tout est possible, tout est valable. Il faut pas avoir de conviction. Il y a un moment.
Ça te perturbe.
J'ai pas du tout dit ça. Hein. J'ai pas dit que tout était. J'ai pas dit que tout était.
Mais en
valable,
même temps,
hein.
Elle a dit qu'elle l'avait rien compris.
Ah, mais d'accord, voilà.
C'est bon. Alors, je crois qu'il a dit qu'il fallait pas rester engoncé dans ses certitudes. Quelque chose comme
tout.
Ça.
Voilà. C'est tout. Ça tout s'arrête bête. Là. Ça veut pas dire que tout se vaut. Hein.
Mais c'est de la philo, quoi.
Oui, mais il y a un moment quand on a des sentiments. Il y a des choses qui sont sûres aussi, quand même.
Bien sûr. Bien sûr, il y a des choses qui sont sûres. Par exemple, il vaut mieux discuter que s'opposer. Ça, c'est une certitude.
Du coup, les
ça.
Politiques qui sont pétris de convictions, c'est de l'incompétence aussi.
Non, c'est que c'est très difficile de faire de la philo et de faire de la politique en même temps. Parce que quand vous faites de la philo, en gros, même si vous avez des opinions, des certitudes, des convictions, on en a tous, hein, des convictions, on est citoyen, c'est normal. Même si vous avez des convictions, votre boulot consiste quand même à la fin d'une vérité à vous intéresser à la vérité, entre guillemets, à laquelle vous n'adhérez pas. Sinon, vous ne le faites pas sérieusement, en fait. Et donc, c'est très compliqué l'engagement politique ou l'encartement politique avec la pratique de cette discipline. Et il y a des tas d'exemples d'ailleurs de philosophes, moi je suis prof de philo, mais de philosophes, de grands philosophes qui se sont heurtés au jeu politique. Raymond Aron par exemple, il a essayé d'être socialiste, il n'a pas réussi parce qu'il n'arrivait pas à être pacifiste dans l'entre-deux-guerres. Ensuite il a essayé d'être gaulliste, il n'arrivait pas parce qu'il était trop libéral. Et il a quitté la politique en disant, dans la jungle, la velléité ne pardonne pas. Il ne peut pas, il a l'esprit trop en un sens, je parle de Raymond Aron ici, il a l'esprit trop ouvert pour être engagé en politique.
Donc le philosophe est honnête,
non.
Forcément,
non, la philosophie est une discipline honnête. Les philosophes ne la pratiquent pas tous comme il faudrait le faire.
D'accord.
Vous êtes honnête, Raphaël Antoine ?
Bah, si je suis honnête avec vous, je dois dire que non. Parce que ce serait... Il m'arrive aussi de faire passer mes convictions en loose day, j'imagine, hein, et de les maquiller de rhétorique. C'est possible, c'est sûr.
Mais ça doit être un enfer pour une femme, un homme comme ça. Vraiment. Mais parce que vous êtes beau, vous êtes brillant, vous devez... Elles doivent plus savoir rien.
C'est horrible.
Oui, je suis sûre.
Tu veux dire, elles auront forcément un complexe d'infériorité ?
Non, c'est pas ça, c'est qu'on sait plus. C'est-à-dire, on comprend, on s'écoute, alors on dit, ah bah ça c'est vrai, ça c'est. Et après, on sait plus
mais,
où on est.
Non, mais ça non, mais, ça
vous comprenez vrai. De quoi je parle ?
Non, mais moi, je vous écoute parler de moi, c'est très intéressant. En fait. C'est super, quand tu continues, hein, c'est super. J'adore vous écouter, donc c'est bien.
Ouais. Non, mais j'aime pas bien ce que j'entends, parce que ça sous-entend que les femmes seraient moins intelligentes que
non,
vous.
Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que cette espèce de.
Ça t'embrouille, quoi.
Il y a un côté. Ouais, voilà.
Ça peut être embrouillé.
Un
espèce de faux follet.
Ouais, ça fait
non,
même plus
pardon, mes
en
amis,
était.
c'est juste que la réalité, pour le dire très simplement, la réalité est trop complexe pour subir une grille en noir et blanc. Le monde est trop complexe, trop fin, trop subtil, trop intelligent, trop drôle d'ailleurs, pour qu'on soit là à dire où est le bien et où est le mal, c'est tout. Alors, le désir qu'on a de savoir où est le bien, où est le mal est bien naturel, mais ça reste mais une faille.
En fait, ce que veut dire Anne Romanoff, là, c'est que voilà... Elle est en dîner, il y a un mec comme vous qui lui dit non mais le bien, le mal, 2 heures plus tard elle est dans le lit, elle sait pas pourquoi. Voilà.
Non, c'est pas ça que je dis exactement. Je dis que cette espèce...
Ils ont du mal à vous comprendre. Ouais.
Cette espèce d'esprit rhétorique brillant, ça, je sais
ça
pas,
perturbe.
Je trouve... Oui, c'est déstabilisant.
Mais c'est pas de la rhétorique, Anne, pardon. Je veux juste dire ça parce que ce serait vexant si vous aviez pensé tout ça, mais c'est pas de la rhétorique au sens où c'est pas juste un jeu de l'esprit ou c'est pas de la gymnastique mentale, c'est juste le goût de chercher la vérité en fait, de chercher la vérité et le refus de penser qu'on la détient. Voilà. Vous avez le goût de chercher la vérité.
Mais est-ce qu'il y a une fin à toutes ces réflexions ?
Non, bien sûr que non. Enfin, il y a une fin, c'est la mort, la fin. Voilà, c'est la mort, la fin. La vie est provisoire. Donc,
mais c'est comme s'il n'y avait aucune réponse aux questions.
Non, alors. Il n'y a aucune réponse. Il y a des tas de réponses. Mais répondre, c'est facile. Mais une réponse n'est jamais satisfaisante. Ce qui est intéressant.
Oh là là, mais comment tu peux discuter ?
Non, mais je ne comprends pas. Je comprends pas parce que nous, on y arrive. Quoi.
Ce que je veux dire, c'est que pour
parce
moi, il y a une vérité du ressenti aussi. De ce qu'on ressent. Et la manière d'arrêter cette machine à penser, c'est de se mettre dans le ressenti de son corps.
Mais c'est pas un obstacle, le corps et l'esprit, je veux dire. S'il y a une vérité du ressenti, ce que vous éprouvez est viscéral, c'est à vous, et c'est vrai, en un sens. Ça veut pas dire que ça soit vrai dans l'absolu. Par exemple, votre corps vous dit la Terre est plate, parce que c'est comme ça que vous percevez les choses, c'est comme ça que vous les ressentez. Bon, vous n'avez pas tort de l'éprouver comme ça, mais vous avez tort d'en déduire que la Terre est plate. Si vous prenez ce que vous ressentez pour la vérité, c'est là que vous faites une erreur.
Ah oui. Elle est pas plate.
Il y a de plus en plus de platistes en même temps.
En plus,
non, c'est vrai, il y a beaucoup de platistes. Ouais. Mais surtout, un platiste, c'est quelqu'un à qui on peut jamais donner tort. Ouais. C'est comme un dogme. Vous pouvez dire n'importe quoi. Vous savez, c'est comme ces gens.
On peut jamais vous clouer le bec, Raphaël Antoine.
Pas de cette façon-là. Mais
c'est déjà arrivé que quelqu'un vous mouche.
Je n'entrerai pas dans ces détails.
Non, mais sérieusement, dans un débat, est-ce que c'est déjà arrivé qu'on arrive à vous clouer le bec ? On peut pas.
Tout le temps, là, maintenant.
Bien sûr que ça peut arriver. Il suffit de dire un truc intelligent. Bon, toi. Laisse tomber, mais...
Non, mais c'est sans fin, en fait. C'est ça qui me fait peur, moi, dans cette manière de...
Pourquoi peur ? Pardon, je vous pose une question.
Parce qu'à un moment, ça fatigue. Je sais pas, j'ai presque mal... Excusez-moi, j'ai presque un peu mal à la tête en vous écoutant.
Parce que tu réfléchis, c'est ça ?
J'ai l'habitude de réfléchir, mais enfin...
C'est comme si chaque phrase était une source de réflexion.
Je vais vous dire, Anne, je suis prof de philo, en fait. Sur toutes les estrades du monde, je suis prof de philo et je le suis encore maintenant ici, chez vous, et avec plaisir. Je suis prof de philo. Je considère que c'est vraiment le plus... D'abord, que professeur est le plus beau métier du monde et que prof de philo, c'est le plus beau métier du plus beau métier du monde. Je suis prof de philo, je suis absolument fier de ça. C'est le sens de ma vie et c'est comme ça que je fonctionne. Et je vous assure qu'on vit très bien comme ça. Vraiment, on vit très bien comme ça et que c'est pas parce qu'on a des doutes ou parce qu'on cultive ces doutes qu'on n'a pas le sentiment d'être sur une terre ferme et de marcher droit.
Voilà,
ça j'ai compris. Vous avez 43 ans, Raphaël Antoine, vous avez une œuvre quand même qui est déjà très conséquente.
C'est vous qui le dites, ça. Moi j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ah jusqu'ici. Bon ah oui, non, j'ai l'impression que rien n'a commencé, mais c'est un sentiment qu'on partage tous, non?
Vous n'avez pas l'impression? Moi, ah, non. Moi je suis un peu au top de ma carrière.
Non, moi j'aime pas trop le côté je me regarde dans une glace avec mes médailles en disant c'est pas mal ce que j'ai fait jusqu'ici, etc. Ce qu'on a fait, on l'a fait. Ce qu'on a fait, on l'a fait. La seule chose qui existe peut-être
c'est
encore,
ce qu'il
c'est
reste ce qui... à faire.
Voilà, c'est ça. J'ai du mal avec la complaisance dans le passé, quoi. Le brandir mes médailles, bomber le torse et me flatter de ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, comme son nom l'indique, ben je l'ai fait. Voilà, c'est fini.
Vous avez une humilité en fait qui se voit pas de prime abord.
Ah bon.
Sympa.
Non, mais... Elle est toujours délicate.
Non, mais c'est vrai. En fait, finalement, vous êtes humble, Raphaël Enthoven.
C'est à vous de me le dire. Je suis mal placé pour vous dire. Si je vous disais, ah oui, je suis humble, vous savez, je vais citer Rousseau. Tiens, vous savez, Rousseau disait, et c'est lui qui a inventé ça, il a dit, je crois que nul homme, jamais, n'eut moins de vanité que moi. Ce qui est vraiment la formule de l'orgueilleux par excellence. J'adore. Donc, je ne vais pas vous dire, ouais, je suis super humble. Ce serait bizarre, non? Je suis champion du monde de l'humilité.
Mais vous comprenez que parfois vous pouvez agacer les gens par votre côté, justement, cette facilité à manier le verbe, cette voix un peu...
Les gens que j'agace pour cette raison-là ne m'intéressent pas. Les gens que j'agace parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi et que j'essaie de leur montrer des arguments et que j'essaie d'accéder à la discussion avec eux, cela m'intéresse. Les gens que j'agace parce qu'ils trouvent que je parle trop vite, je m'en fous, c'est leur problème, c'est pas le mien si vous voulez, je parle comme je peux. Mais en revanche, les gens que j'agace parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on arrive malgré tout à construire une discussion, là ça m'intéresse.
Moi au contraire, je trouve que c'est comme écouter du piano. On peut écouter ça pendant des heures. C'est vrai.
Merci pour le ça.
Ouais. Enfin, excusez-moi, c'est pas réducteur.
Non, ça va,
mais
je prends le piano, ça va.
Des heures, faut le dire vite quand même. Hein.
Non,
quand on est élève, on n'a pas le choix.
J'ai une petite question, moi, tout de même, parce que vous avez fait la distinction tout à l'heure entre un prof de philo et un philosophe. C'est quoi la différence? C'est le succès, c'est quoi?
Non, c'est que je suis mal placé pour me désigner moi-même comme philosophe. Les gens disent, ils ont collé l'étiquette philosophe. Et en général, ils disent, alors les gens décrètent que vous êtes philosophe, ils décrètent que vous êtes philosophe autoproclamé, ce qui est extraordinaire. Vous ne le dites jamais vous-même, mais philosophe autoproclamé. Je suis prof de philo parce que j'ai passé des concours qui permettent d'exercer cette profession. Et je peux dire objectivement et en toute rigueur qu'effectivement, je suis prof de philo.
Mais vous n'êtes pas philosophe alors ?
Je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire.
Voilà. Quels sont les philosophes contemporains que vous appréciez, Raphaël Enthoven ?
J'aime au-delà de tout un philosophe qui est mort l'an dernier, qui s'appelle Clément Rosset, qui a écrit un livre qui s'appelle notamment. Il a écrit beaucoup de livres et des chefs-d'œuvre. Il en a écrit un notamment qui s'appelle Le réel et son double. Et je le cite parce que c'est un livre qui date de 75 et c'est un livre dans lequel il se prend, même s'il ne les nomme pas comme ça, les fake news. C'est le meilleur déconstructeur de l'idée même de fake news et du rapport au réel. C'est le philosophe du réel. Et il travaille sur toutes les façons qu'on a d'esquiver le réel. Il est très drôle, il est merveilleux. Je le dis à l'antenne, son livre s'appelle Le réel et son double. J'espère que des gens auront la curiosité d'aller y
vous
voir.
Vous pouvez répéter son nom parce que Anne n'a pas
Clément
noté.
Clément Rosset.
Si j'ai noté. Mais ça suffit. Ben Nash a des choses à vous dire, Raphaël Enthoven.
Oui, alors sachez avant tout que face à vous, Raphaël Enthoven, je n'emmène pas large à exposer mes mots à un homme de lettres, mes réflexions à un homme qui pense. Moi, servir à une chronique à Raphaël Enthoven, j'ai l'impression de servir à un McDo à Philippe Etchebest. Et paradoxalement, c'est ça qui est marrant, pour mes collègues chroniqueurs, ce même papier, c'est du caviar. Ah, comme quoi, chacun son niveau, les copains, on est bon esprit. Qu'on se le dise à l'entame de ce billet, ma plume se déplume, ma voix passe en mode vibreur. Si au bac, la philo était une épreuve orale, quelle chance de la passer ce midi face à vous, Raphaël Enthoven. Bref, à l'image d'un philosophe qui manie l'allégorie pour mieux se faire comprendre, je resterai dans le lexique imagé du bachelier pour vous résumer ainsi la situation. Ce midi, Raphaël Enthoven, je me chie dessus. Et pour cause, il n'y a qu'à entendre notre invité parler de Jean-Luc Mélenchon pour ne pas avoir envie d'être sous le feu de l'éloquence de monsieur Enthoven. C'est le seul mec, quand il te clash, tu as besoin d'une bibliothèque pour comprendre les attaques. Pourtant, derrière le philosophe, il y a forcément un être humain, comme tout le monde. Même Platon pouvait aller se gratter un bingo PMU en allant parler avec bêtise de la bêtise. Et en parcourant votre bio, Raphaël Enthoven, deux thématiques récurrentes dans votre œuvre m'ont sauté aux yeux. Marcel Proust et le clitoris. Alors, ça nous est déjà un point commun.
Le clitoris n'était pas du tout l'obsession de Marcel Proust,
d'ailleurs. Non, aucun rapport. Mais lequel des deux, ce point commun, indice, Raphaël, je ne suis pas trop littérature. Même si, je l'avoue, mon légendaire égoïsme me pousse à penser que le clitoris, dans le fond, c'est un petit peu à la recherche du temps perdu. À mon sens, le philosophe, c'est celui qui se pose les questions qu'on ne se pose pas. Mais quand on finit par se les poser, on réagit toujours en passant par les deux mêmes étapes. Première étape,
Deuxième étape, bah ouais, bonne question. Par exemple, une question au hasard présente dans votre dernier ouvrage. Si Dieu existait, aurait-on besoin de croire en lui ? Bah ouais, bonne question. Ça m'avait fait déjà le coup à l'épreuve de philo au bac. J'ai eu la question. Les lois sont-elles l'œuvre de la raison ? Bah ouais, bonne question. Et ce qui est bien avec la philo, c'est que chaque question entraîne non pas des réponses, mais d'autres questions. Par exemple, la question que j'avais eue au bac, les lois sont-elles l'œuvre de la raison, m'a mené immédiatement vers une autre question. Mais qu'est-ce que je fous là ? Et parce que la philosophie, c'est avant tout un échange. Mon père aussi s'est mis à poser des questions après avoir reçu ma note. Fiston, connaissant bien ta mère et d'un point de vue strictement génétique, comment tu peux être aussi con ? Ce à quoi tu réponds inévitablement, bah ouais, bonne question. Puis par la suite, mon rapport à la philosophie s'est limité à la lecture des livres de Loana et à mon meilleur ami Bruno, qu'on appelle le philosophe pour sa capacité à poser aussi des questions qu'on ne se pose pas. Par contre, lui, il ne puise pas son savoir dans les livres, mais dans le chardonnay. Et par exemple, samedi soir, en fin de soirée, il est venu nous dire bah ouais, bonne question, Bruno. C'est tellement important de se poser les questions, Raphaël Enthoven. Dans une société où chacun pense avoir sa vérité et où personne ne confronte plus ses réponses, à une époque où les médias regardent le monde de toujours plus près pour avoir justement ces mauvaises réponses, il serait bon de prendre plus de recul pour se poser les bonnes questions. Alors que se taisent les polémistes et que s'expriment les philosophes, Raphaël Enthoven, une fois n'est pas coutume, merci de m'avoir écouté.
Ouais.
Agir à la chronique de Banache.
Oui, j'aime beaucoup ce qu'il dit du chardonnay parce que la différence, selon mon Clément Rosset que j'ai cité tout à l'heure, la différence entre l'homme ivre et l'homme sobre, c'est que l'homme ivre sait qu'il est bourré, alors que l'homme sobre croit qu'il est lucide. De sorte que... Mais c'est vrai, on peut pas être bourré sans savoir qu'on est bourré. En revanche, il y a des tas de gens sobres qui croient que pour cette raison, ils ne disent pas de bêtises. Donc il dit, l'homme bourré a toujours un coup d'avance sur l'homme sobre. Donc il est pas absurde, Bruno.
C'est Bruno, d'accord.
Le chardonnay, c'était bien.
Du coup, in vino veritas.
Bah ouais. Ouais. Hey, in vino, ouais, enfin dubito.
Ouais. Quoique, moi j'ai déjà entendu plein de mecs bourrés dire, je suis pas bourré du tout.
Voilà,
ça existe aussi.
C'est vrai, mais ils ont un doute sur ce qu'ils disent.
Raphaël Enthoven, dans votre livre, vous dites à propos de l'amour, mais à moins d'un miracle, il n'y a littéralement aucune raison pour que le partenaire idéal soit aussi le partenaire de vos rêves.
Ouais.
Que ça veut dire ?
Bah, c'était sur Tinder, en fait. C'est parce que Tinder a développé, ils ont lié la folie des algorithmes, et donc ils considèrent maintenant que c'est pas simplement le coup d'un soir, c'est qu'ils vont, grâce à Tinder, vous trouver le perfect match pour toute la vie, quoi.
Mais on présente que des moches, moi, sur Tinder.
Justement. Ils disent, voilà, on va vous trouver ça. Or, c'est une illusion parce que l'amour n'est pas une science exacte. Si on vous demande, si votre conjoint vous demande imprudemment pour quelle raison vous l'aimez et que vous, imprudemment, vous vous aventurez à répondre à cette question, votre histoire est morte. Puisque, quelles que soient les raisons que vous donnez à votre amour, ça veut dire que l'amour disparaît le jour où ces raisons s'en vont. Si vous dites à quelqu'un, je vous aime parce que vous êtes beau, le jour où le type sera laid, ben, vous l'aimerez plus. Donc, quelle que soit la raison, on ne peut pas donner de raison à l'amour. Or, Tinder fonctionne sur l'idée que une addition de qualité produira la personne parfaite pour vous. Et c'est vrai que souvent dans la vie, la personne qui, entre guillemets, vous correspond le mieux n'est pas celle que vous aimez. Il y a là quelque chose d'irrationnel que Tinder, avec tous les algorithmes du monde, ne peut pas résoudre.
Ouais. C'est pas très compliqué,
ça.
T'as compris,
Anne ? J'ai compris que c'était compliqué. Ouais, ouais. Mais ça, je m'en étais aperçue par moi-même.
Et qu'il fallait pas aller sur Tinder.
Léa Londo, des questions à vous poser.
Raphaël Enthoven, donc le titre de votre livre, Nouvelle morale provisoire, m'a perturbée parce que j'aime tout ce qui est nouveau, mais j'ai du mal avec ce qui est provisoire. Puis la morale a tranché parce que vous êtes beau, et comme disait Kant, le beau est le symbole du bien moral. Alors, je sais que j'ai dû perdre la moitié des auditeurs et Anne, mais tout cela m'emmène vers ma première question. Est-ce qu'on pourrait dire que lire du Raphaël Enthoven, c'est bon pour le moral ou c'est bon pour la morale ?
Ah, je ne suis pas bien placé pour vous le dire. Ce que je sais en revanche, c'est que lire ce livre, on ne reçoit aucune leçon de morale dans l'histoire. Ouais. Je ne suis pas moralisateur. Je ne dis pas où est le bien, où est le mal. J'en sais rien et je suis très mauvais exemple de ça. Mais en revanche, j'essaie d'être un peu moraliste. C'est-à-dire, j'essaie de tirer une morale, pas de faire la morale, si vous voulez. Voyez.
Alors, justement, une actu parfaite, selon vous, Raphaël Enthoven, c'est celle qui relaye une info, qui remonte le moral ou qui transmet une morale ?
Non, une actu parfaite, c'est une info où soudain la chronique s'écrit en vous. Vous avez juste à recopier. Ça vous prend une heure. C'est le contraire des moments où vous n'avez pas de sujet, où vous ramez comme un malheureux, vous êtes obligé d'aller piocher dans les fonds de tiroir.
On connaît
bien.
Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est ça.
Alors Raphaël Enthoven, on demande toujours à une fille si c'est plus dur de faire rire quand on est belle. Est-ce que c'est plus dur d'être philosophe crédible quand on est bel homme ?
Ah, Quelle bonne question. Je sais pas, je sais pas. Si j'étais bel homme, je pourrais vous répondre.
Bah, comment, il comment il se la pète.
C'est un piège, qu'est-ce qu'on fait dans
c'est
ces
comme une fille. C'est comme une belle fille à qui on dit oh, t'es belle, fait, bah, tu crois.
Vous vous posez combien de questions dans une journée, Raphaël Antoine?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais combien de réponses je pose, mais les questions, je ne sais pas.
Alors, on a parlé de plein de sujets tout à l'heure dont vous vous posez, sur lesquels vous vous posez des questions, dont celle dont parlait Ben H précédemment, le clitoris. Et vous vous posez une question, est-il une arme de guerre?
Oui.
Alors, parce que comme ce sont les hommes qui partent en guerre le plus souvent, hein, faudrait-il déjà qu'ils parviennent à trouver l'arme, non?
L'alarme à l'œil.
Alors, vous dites aussi, donc, pour Harvey Weinstein, dont on parlait tout à l'heure, valait-il mieux qu'il se fît prendre ou qu'il restât impuni? Alors, avant d'y répondre, y a-t-il un double sens dans la formulation se faire prendre ici?
Ah, j'y avais pas pensé.
C'est vrai?
Oh, j'y avais pas pensé. D'ailleurs, impuni aussi, on pourrait jouer avec. Non, j'y avais pas pensé, c'est vrai.
D'accord. Alors, j'ai essayé de transposer à autre chose. Alors, moi, à chaque fois, l'épiphanie, il y a la galette des rois. Vous savez, j'adore ça.
Oui.
La tentation est énorme. Oui. Un peu comme si la galette me draguait en me disant mange-moi, je te dis. Et je ne sais jamais quoi faire. Donc, surtout qu'elle insiste avec sa petite paille feuilletée si craquante.
Là, alors, j'ai un conseil pour vous.
Alors, est-ce qu'il faut créer le hashtag balance ta part ou pas?
Non. Non, mais il y a. Alors, pardon de faire le cuistre, mais il y a quand même une citation qui est merveilleuse d'Oscar Wilde qui dit: moi, je résiste à tout sauf à la tentation.
Ah, ouais.
Et ça, c'est pas mal, je trouve.
C'est vrai.
C'est une bonne façon de lutter contre la tentation, c'est de la combler. Après, elle disparaît.
Ça veut dire bouffe-la, ta galette.
Bah ouais, voilà. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais.
Je ne vois aucun intérêt à pas manger une galette dont on a envie, en fait.
Vrai,
voilà, c'est ça. Je comprends pas pourquoi les gens s'en privent. Vous savez, les gens qui se privent de galettes, c'est des gens qui croient qu'en fait, ils investissent, en fait. Ils croient qu'ils vont, il y aura plus ensuite. Mais c'est faux. La galette, c'est maintenant.
Non, c'est vrai. Bah, je vous rassure, je ne m'en prive pas.
Bon.
Bref, vous vous posez des questions, surtout Raphaël Antoven. Alors, je me demandais quelle est la première question que vous vous êtes posée en apprenant que vous seriez l'invité d'Anne Romanoff.
Ah.
Anne Romanoff, sérieux?
C'est la question. Non, la question que j'ai posée, c'est t'es sûr? T'es sûr? J'étais étonné d'être invité.
Ah ouais,
j'étais flatté d'être invité d'ailleurs, mais j'étais étonné d'être invité. Oui, je suis content d'être là.
Non, parce que je me suis dit, moi, ça m'aurait inspiré une question. Peut-on parler sérieusement avec des gens qui ne se prennent pas au sérieux?
C'est même les seuls avec qui on puisse parler sérieusement. Les gens qui se prennent au sérieux, c'est très ennuyeux. Il faut se moquer d'eux. Les gens qui se prennent pas au sérieux sont les seuls gens vraiment rigoureux, quoi. C'est la première chose à faire, la première discipline, la première personne dont il faut se moquer, c'est soi-même.
C'est sûr. Nous, on fait que ça ici.
Voilà.
Merci, Raphaël Antoven. Notre invité, une humoriste qui a grandi à Versailles, elle a triomphé avec son premier spectacle, élégamment intitulé « Seule dans ma culotte ». Oui, elle est franchement culottée. Qu'elle a...
Et j'étais seule dans sa culotte.
Dans sa culotte.
Dans ta culotte, je ne veux pas savoir ce qui se passe, surtout maintenant, Anne.
Elle est franchement culottée, qu'elle a appris à transformer sa timidité en audace. Elle vient nous parler de son troisième spectacle, « Obsolescence programmée », toujours avec la même niaque. Accueillons Elisabeth Buffet.
Bravo. Merci, Anne. Merci à tous.
Bonjour, Elisabeth Buffet.
Bonjour madame.
Alors vous serez au Théâtre du Marais à partir du 12 janvier 2019 avec ce nouveau spectacle, Obsolescence programmée.
Eh bien écoutez, c'est un spectacle où je change, j'ai changé.
Oui.
C'est le spectacle de la maturité. pas que. Non, c'est vrai, c'est un spectacle où je me renouvelle tout en étant fidèle à moi-même. C'est fini les frasques nocturnes, fini la picole.
Oh merde.
Mais quand on sait pas boire, on s'arrête. Voilà, donc fini
vous
la clope.
Vous avez arrêté de boire,
tout.
Vraiment?
Tout. Ah, mais j'ai arrêté de boire, de fumer. Donc, tout ce qui est lié autour de, comment dirais-je, de la nuit.
Ah oui?
Ouais, je suis devenue diurne et je bois des tisanes. Et forcément.
Non, mais en vrai, parce que vous êtes une.
Non, mais c'est vrai, je dors avec une bouillotte du coup. Ah, ben forcément. Ah, mais il y a un moment, bon, il y a une logique, il y a une cohérence. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez des propos d'Yann Moix sur les femmes de 50 ans?
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit qu'il ne pouvait pas coucher avec une femme de 50 ans.
Mais je le compte, je ne pourrais pas coucher avec lui.
En revanche,
non, mais c'est vrai, je ne désire pas les gens de mon âge, de toute façon.
Mais
de toute façon, je ne désire plus rien. Je ne désire plus.
Oh, voyons.
Mais vous désirez les hommes plus jeunes?
Non plus.
Vous êtes sûr?
Une bouillotte. Un plaid.
Une tisane.
Alors, Elisabeth Buffet, dans ce spectacle, vous parlez de la décrépitude physique. Qu'est-ce que c'est, ça?
Ne faites pas votre innocente.
Mais moi, je suis pour la décrépitude physique.
Mais ça va pas,
mais qu'est-ce que c'est?
Mais oui, Elisabeth.
Je ne sais pas. Moi, je suis en plénitude.
Et moi, c'est pareil, je me suis renseignée. Vous pensez bien? Bah oui. Non, bah, tout descend, madame. Il y a une espèce de loi. qui fait que tout ce qui est au nord descend dans le sud, comme les retraités. Voilà, c'est une espèce de transhumance des organes.
Et vraiment, vous trouvez ça?
Ah ben, bah, je constate, je me
vos
regarde.
Vos seins sont tombés?
Ah oui, et pourtant ils sont pas énormes. Déjà ils étaient, voilà, déjà ils étaient pas bons dans un volume extraordinaire. Et puis maintenant ils sont, bah, du coup, et je ne fabrique plus de collagène.
Ah
alors
bon,
je sais pas vous, mais du coup moi, j'avais, du coup tout est mou, ma peau est.
Ah non, pas moi.
J'ai l'impression d'être dans une maison de retraite.
Ah oui, bonjour femme actuelle. Bonjour.
Excusez-moi, c'est à quel moment on a commencé l'émission dans une EHPAD?
C'est ça.
Mais non, mais bah, attends, excuse-moi, tu as quel âge, Michael?
Mais non, mais j'ai pas l'âge d'avoir pas de collagène.
Mais, ça, mais ta peau commence.
Mais ça fait quoi, mais... le collagène en fait? C'est ce qui fait,
c'est ce qui fait que ça, il y a du rebond, tu vois. Enfin, ça fait pas trampoline, mais tu vois, ça, tu peux quand même, tu vois, du rebond, ça reprend sa forme initiale.
D'accord.
Comme une éponge. Tu vois, là, si t'appuies dessus, ça reste comme ça, tu vois.
Je peux changer de place, s'il vous plaît.
J'ai peur.
Elle fait très peur.
Cette femme me fait peur.
Alors, vous avez le buffet, vous dites que vous êtes mémérisé, que vous buvez des tisanes. Vraiment, vous dormez avec une bouillotte.
Oui, oui. J'ai découvert des bouillottes avec des graines de lin.
Oh là là. C'est vrai.
Oh la tristesse.
Tristesse de la personne.
Moi, je commence à comprendre Yann, moi, que ça.
Non, en même temps, t'as moins de déception parfois avec une bouillotte qu'avec un homme.
C'est sûr. Mais il y a une espèce de régularité, du coup, de fidélité, absolument. Oui, oui. Ouais. Non, parce que je prends même pas d'animal, parce que bon, bah, il est tourné, tout ça. Donc non, la bouillotte, est, voilà, n'a pas besoin d'entretien.
Et vous faites des simulations de votre retraite?
Oui, c'est là où je me suis dit, merde.
Ah, j'ai eu peur, ah, j'ai eu peur quand vous avez dit simulation. Ouais.
Bah non, du coup, je simule plus que ma retraite, tu vois. Et je prépare mon ticket de bus à l'avance, tu vois, chez moi. Et tout ça, non, mais c'est des petites choses qui, isolément, c'est pas gênant, mais mis bout à bout, on se dit qu'on ouais, on a pris un coup. Il y a des paliers dans la vie. Et il y a eu palier.
Alors, vous venez de Versailles, Elisabeth Buffet, d'un milieu assez traditionnel, on va dire.
Absolument.
Et puis, comment vos parents ont vécu comme ça d'avoir une fille qui va sur scène en racontant des trucs assez trash, quand même?
Oui, ça fut compliqué. Ça fut compliqué.
Surtout, vous, dernier spectacle, vous faisiez de la pole dance sur scène.
Oui, oh ben heureusement, mon père était décédé avant, donc du coup, il n'a pas vu ma culotte pleine de poils. Non, mais c'est vrai qu'en plus, mon premier spectacle, effectivement, seul dans sa culotte, je racontais un peu mes phrases voilà, de slip. C'est vrai que pour des parents, c'est pas facile de voir sa fille faire ça. Mais à partir du moment où j'ai eu quelques petits trophées, pour eux, c'était comme des diplômes, voilà, une reconnaissance, donc du coup, ça les
donc
a rassurés.
Maintenant, votre maman vous suit, elle vient...
Ah, c'est la première fan. Il y a toutes mes affiches dans sa chambre. Oui, tout à fait.
Des trophées.
Elle brosse son dentier en regardant. Ah bah oui, parce que forcément, elle est encore pire que moi au niveau de la vieillitude.
Mais alors, Elisabeth Buffet, vous avez commencé assez tard votre carrière, à 38 ans. En fait, vous avez été à la FNAC avant?
Oh bah notamment, oui. J'ai travaillé en commercial, dans le marketing. Oui, c'est la bord de la quarantaine qui m'a décidé.
Tout à coup, vous êtes dit, allez, je me lance.
Faut pas que je passe à côté de mes rêves, oui.
Et vous êtes heureuse?
Ah bah je regrette pas, comment dire. Les collègues, ah, en même temps c'est sympa, des collègues comme vous, j'imagine. Mais non, les trucs de bureau, tout ça, les concours d'habillage de porte, non, ça ne me manque pas.
Et vos anciens collègues viennent vous voir sur scène?
Oui, la FNAC, oui, m'a suivi et soutenu dès le début, donc oui, je les remercie infiniment.
Vous étiez à quel rayon là-bas à la FNAC?
Non, mais j'étais au siège social à la direction du marketing. J'ai incarné à moi toute seule le service client adhérent pendant des années. Les gens qui râlaient en disant ouais, ma carte de fidélité, j'ai pas assez de points, nana.
C'est vous?
C'était moi.
Et vous répondiez quoi?
Bah, désolée, j'entends bien votre demande. Tenez, voilà un petit chèque cadeau de 5 euros.
On dirait Macron, je te jure. Désolée, un petit chèque.
Notre invité, Elisabeth Buffet. Vous nous parlez de son spectacle Obsolescence programmée. Moi, je ne vous trouve pas obsolescente, Elisabeth Buffet. Je vous trouve.
Alors, on dit obsolète déjà.
Déjà.
Alors, vous savez que j'ai une écriture assez précise
oui,
dans les spectacles, encore plus que dans les précédents. D'ailleurs, j'ai laissé libre cours un petit peu mes penchants littéraires. Donc, la langue française, pour moi, c'est important. On est toujours l'obsolète de quelqu'un et on est toujours l'obsolète de soi. C'est-à-dire que moi, je suis l'obsolète de quand j'avais 35 ans, forcément. Et les tendances ne viennent plus à moi.
Mais moi, je me trouve, par exemple, moi, je suis mieux dans ma peau maintenant qu'à 35 ans.
T'as plus de place.
Peut-être parce que la peau est plus belle. Parce que...
Non, mais attends. Je sais pas, je propose. Hein.
J'ai plus de place.
Non, je propose des choses.
Et moi, je vais dire oui, parce que la peau est plus souple.
Voilà, c'est collagène, voilà, c'est ça.
Elisabeth Buffet, il paraît qu'une fois, un homme tout nu a sonné à votre porte.
Oui, c'était il y a longtemps.
Sacré ménage. Ouais.
Maintenant, c'est moi qui ouvre la porte pour voir s'il y a quelqu'un.
Un homme tout nu a sonné, mais c'est vous
non,
le connaissiez.
Non, mais c'était hyper drôle. Non, mais c'était quelqu'un... donc ça sonne, jour, effectivement, un monsieur tout nu qui se tenait, donc, qui se masquait le sexe avec ses mains, en disant, oui, je suis désolée, je sortais mon sac poubelle, je me suis fait enfermer dehors, j'étais tout nu. Bon, est-ce que je peux appeler un serrurier de chez vous? Bien sûr. Non, mais attends, ça peut arriver.
Il est resté.
Et puis moi, je trouvais
ans.
Ça tellement rigolo que je dis oui, venez. Je lui ai enfilé un petit peignoir qui lui avait été, voilà. Et puis il a appelé un serrurier, bon, mais il est resté une heure, hein, il est reparti. Et en fait, j'ai appris plus tard, et puis je l'ai vu, c'était un exhibitionniste dans l'immeuble. Le gars, il n'ose pas aller.
Juste pour les voisins.
Ouais, donc c'est la nuit, on voyait une espèce d'ombre toute nue. Et puis il était pas mal.
Mais il habitait là.
Il habitait au-dessus de chez moi.
C'était un exhibitionniste frileux, en fait, c'est ça.
Il faisait ça à toutes les femmes de l'immeuble.
Ouais, mais c'est... Alors, je n'ai pas su si effectivement j'avais été sa cible ou si c'était un hasard. Bah, après, il m'a quand même donné un petit mot. Je vous inviterais bien à boire un coup. Donc, je me suis dit, ah bon, quand même, finalement, bon, voilà. Mais sauf que non, tu vois que la personne toute nue tout de suite, ça manque.
De mystère.
Oui, de prélude.
Vous êtes restés ensemble combien de temps?
Jean-Philippe Bizy, vous êtes confronté à l'obsolescence programmée, vous aussi?
Oui, oui. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tout ce qu'on achète a une obsolescence programmée. Par exemple, t'achètes un téléphone portable, au bout de 2 ans, la batterie, elle marche plus, il faut le changer. Tout a une obsolescence programmée. Moi aussi, apparemment, j'ai une obsolescence programmée. Ma femme, elle me dit toujours, voilà, le mec parfait qui cuisine, qui fait la vaisselle, ça a marché pendant 3 mois. Ouais, ben chérie, toi, c'est pareil. Hein. La femme fatale qui m'attend en tenue sexy quand je rentre du boulot, au bout de 6 mois, il y a eu un bug. Elle a dû faire une mise à jour qui a fait planter le programme. Depuis le soir, elle m'attend en pyjama Winnie l'ourson. Avec ma femme, oui, on a commencé le challenge Dry Janvier, qui consiste à ne pas boire pendant tout le mois de janvier. Eh ben, on est déjà le 8 janvier, on a déjà abandonné. Et ça, c'est pas de notre faute. C'est à cause de Enfin bref, c'était programmé. Voilà. Ce week-end, on a fait l'épiphanie. En famille, avec les enfants et les beaux-parents. Et ben, c'est ma belle-mère qui avait fait la galette. On a commencé à la manger. On avait tous la fève. Belle maman, vous avez mis combien de fèves dans la galette? Elle me dit, c'est pas des fèves, c'est mes dents. J'ai éternué, elles sont toutes tombées dans la galette. Oh mais c'est horrible. Mon beau-père, oh ben moi j'aime bien, ça donne du goût. Le petit, papa, regarde, ma fève, elle est en or. J'y chute. Tais-toi, donne-la-moi discrètement. Avec le prélèvement à la source, on sera bien content de pouvoir revendre les dents de mamie à la fin du mois. De toute façon, avec ma belle-mère, l'obsolescence, elle est bien programmée et ça va pas aller en s'arrangeant. En tout cas, Elisabeth Buffet, vous voyez que vous avez bien fait de choisir ce titre pour votre spectacle parce que l'obsolescence programmée, ça concerne tout le monde.
Ça, c'est vrai. Elisabeth Buffet, vous avez fait aussi une incursion au théâtre. Vous avez joué avec Denis Maréchal dans une pièce de Balasco, Une nuit d'ivresse. Et c'était, ça vous a apporté des choses pour le One Man Show de faire du théâtre ?
Ça m'a donné à nouveau envie de faire du One. Non, c'est très intéressant. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est un beau texte. J'avais envie de jouer d'autres mots et jouer avec des partenaires. C'est vrai que c'est pas évident au début. En plus, Denis aussi, il vient du One. Donc c'est vrai qu'au début, par exemple, on jouait tout face, public. Les premiers saluts, on s'est dit, mais ah bon, les gens, c'est pas que pour moi les applaudissements. C'est pas évident de partager voilà, la scène avec quelqu'un. Mais du coup, ça m'a renourri. Et puis de se soumettre à un metteur en scène, c'est vrai que ça réapprend l'humilité, en fait.
Ça s'est bien passé, le réveillon, Elisabeth Buffet?
Ah ben moi, j'étais couchée à 21h30.
Bonne année, hein.
Super.
Mais comment ça se fait?
Mais je lisais. J'ai lu Bouillotte, un bon livre.
Vous avez reçu...
Il y avait des merdasses à la télé.
Vous avez reçu des textos quand même?
Ah oui, mais ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé.
Le voisin tout, le voisin tout.
Quel est le connard qui m'envoie des trucs à minuit.